Salut à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille, bienvenue au Petit Pavillon. C'est le premier des apéros de Radio Grenouille au Petit Pavillon. Radio Grenouille y son Petit Pavillon tous les vendredis de l'été de 18h30 à minuit. Et vous écoutez en ce moment Luciano Bergonzi avec Missoula. C'est une sélection de RAF, RAF, résident des 3-8, que vous retrouverez en mix juste après cette émission pour ceux qui sont présents ici au Petit Pavillon avec nous. Et tout au long de l'été, résident des 3-8, amis, DJ ou sélecteur de choix se succéderont aux platines du Petit Pavillon 54 Corniche Kennedy. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, toutes les infos sont sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Cette première au Petit Pavillon, où on est bien content de vous de redonner rendez-vous cette année, c'est aussi l'occasion d'enregistrer l'émission spéciale que vous allez entendre, qu'on a choisi d'appeler l'été de la grenouille. À l'heure où nous enregistrons, l'été n'est pas encore officiel, hein, la date n'est pas encore passée, mais les températures en témoignent, il a bien commencé, tout comme la saison des festivals, donc, dont le nombre a littéralement explosé depuis le début du millénaire, on pourrait dire. Depuis le début de la décennie 2010, c'est encore pire, et sans doute l'effet d'entraînement de 2013, année européenne de la culture, n'y est pas non plus pour rien. À l'orée donc de plonger dans cette saison festivalière estivale, la Grenouille a convié ses amis, partenaires, acteurs de la vie festivalière de Marseille en été, pas que de Marseille d'ailleurs, pour cette émission spéciale à la cool où on se posera quelques vraies questions. Je suis avec Élodie Lebreu. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonsoir presque.
Tu es chargée de production et de programmation à l'AMI, hein, c'est bien ça ?
Je suis directrice adjointe et chargée de programmation à l'AMI, oui.
Pardon, ça commence mal.
Non, mais ça va Stéphane.
Mais j'ai commencé quand même avec toi.
Je ne suis pas du tout susceptible sur ces points.
Je suis tout à fait galant. Et
comme ton nom l'indique.
Voilà, tu es là pour représenter aussi le festival Mimi, qui est l'événement principal qu'organise l'AMI, Aide aux Musiques Innovatrices. C'est la 29e édition. 5 jours du 2 au 6 juillet avec une com cette année assez coup de poing qui associe Vladimir Poutine et Dark Vador entre autres. Un festival toujours autour des musiques atypiques, des créations dans le cadre de l'hôpital Caroline. On en parlera sans doute aussi, l'AMI c'est des activités à l'année avec un autre événement qui s'appelle Village Hip Hop à la Friche, mais aussi la couveuse cadeau ou des coopérations internationales. Vous êtes aussi membre du COFIS, qui est un collectif de festivals qui s'est formé autour des valeurs de l'économie solidaire et de l'écologie. Et puis, à noter que Grenouille sera en direct à la Friche Belle de Mai le 3 juillet pour la première des grosses soirées du Mimi. Alors, je disais, on va se poser des vraies questions essentielles. Ma première question que je vais poser à chacun de mes invités d'ailleurs, Élodie, c'est à ton tour. Qu'est-ce qu'on boit à l'apéro à Mimi ?
Qu'est-ce qu'on boit à l'apéro à Mimi ? On boit du vin naturel. On boit des bons jus de fruits et puis après on boit aussi un petit peu ce qu'on veut. L'idée c'est pas non plus d'être des dictateurs d'une forme de consommation, c'est plutôt de sensibiliser le public à une autre manière de consommer.
Alors,
c'est la vraie réponse. Est-ce qu'il y avait un double sens à ta question ?
Non, pas du tout. C'était question totalement innocente. Le Mimi c'est des musiques pas évidentes quand même, faut le dire. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment facilement accessible au grand public a priori.
Non, alors c'est
même
pour ça
si,
qu'on a...
Alors c'est un peu musique innovatrice, musique assez atypique, expérimentale. On sent depuis quelques années, que ce soit via la communication ou la programmation de certains artistes, c'est pas une tendance massive non plus, mais cette année on pourrait penser à Étienne Jomet, hein, qui a un pied un peu dans les musiques dites plutôt expérimentales, mais qui est aussi connu du milieu et du public électro, par exemple. On sent depuis quelques années cette volonté de sortir un petit peu de cette image de festival très pointu pour un public, peut-être certains le pensent, de vieux qui fument la pipe, non ?
C'est-à-dire que cette modification, elle est aussi liée à la collaboration que j'ai avec Ferdinand Richard, le fondateur. Ça fait 4 ans que je travaille avec lui sur la programmation. Moi, je ne suis pas du tout de sa génération. J'ai 33 ans, si vous voulez tout savoir. Donc, y a une discussion entre nous où effectivement il y a peut-être des esthétiques où la nouvelle génération a un petit peu de mal à se retrouver. Ceci étant, on fait quand même vraiment l'effort de rester sur une affiche très pointue et de proposer aux artistes aussi d'être là où on les attend pas nécessairement. Raison pour laquelle on invite Étienne Jaumet avec Richard Pinas, là où il y a aussi un dialogue intergénérationnel, et on programme pas nécessairement Zombie Zombie. Donc c'est des contre-pieds qu'on prend. Les musiques pop ont aussi des recherches expérimentales qui sont intéressantes. Et puis c'est aussi des mouvements indépendants. Donc il y a cette volonté de valoriser les artistes et les producteurs indépendants.
Sugarcraft, Postcoitum, Kamel Zekri, Joséphine Foster ou Suicide sont à l'affiche du Mimi cette année. Également avec nous sur confortablement installé sur la terrasse du petit pavillon, alors que le soleil commence à descendre vers la mer. Également avec nous, Olivier Ray. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Tu travailles à la communication, c'est ça, avec le festival Nuit Métis. Et tu es également membre organisateur actif du Zigzag Festival.
Tout à fait, à la presse. Alors, et à la communication.
Nuit Métis, c'est la 21e édition. Ça se passe à Miramas, au plan d'eau Saint-Suspice. C'est un festival gratuit qui se déroule du 19 au 21 juin, avec une affiche, là, tout à fait grand public, j'ai envie de dire. Zebda, dubbing David Walters, Wilaya 49, Macadam Bazar ou Téménique Électrique, il me semble.
Nayas, Téménique Électrique, c'est plus sur Zigzag.
C'est sur Zigzag, je mélange, tu vois. Un festival qui se déroule sur un territoire très particulier, qui est assez loin de la relative opulence culturelle de la capitale métropolitaine. Le Zigzag Festival, c'est un peu plus tard, c'est du 17 au 19 juillet. Ça se passe au Théâtre de Verdure d'Aix-en-Provence, avec là aussi une affiche plutôt rassembleuse et reggae et musiques actuelles du monde. Naaman, Clinton, Firon, Chesudaka ou Téménique Électrique. C'est quoi les spécificités je parlais de l'éloignement par rapport à Marseille, où on voit qu'il y a une vraie effervescence autour de la création de nouveaux festivals, de festivals anciens qui essayent de se renouveler aussi, qui sont toujours présents. Là, vous êtes en territoire un petit peu, c'est un peu, en comparaison, Miramas par exemple, c'est quasiment un no man's land en termes de gros événements en tout cas.
Oui, alors moi je suis marseillais donc j'ai pas de souci avec ça, mais c'est même un no man's land, on va dire, la ville en soi, il y a des problématiques tout à fait symptomatiques. On a 40% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté au niveau européen. On a juste une gare, on n'a pas d'hôtel pour loger les artistes, on est obligé de loger les artistes du côté d'Istres ou des villes alentours. Donc voilà, sans faire dans le misérabilisme, ça donne un cadre un petit peu dans lequel on évolue. Et en fait là, clairement, tu attaquais en disant que c'était précisément une programmation qui était très grand public. C'est exactement le propos en fait. On est sur de la gratuité, on est sur de la cohésion sociale via le médium culturel. Et le but du jeu, c'est vraiment, et le directeur artistique est très fier, c'est un des festivals où on voit le plus de poussettes. Alors c'est un indicateur un peu étrange, mais le fait d'avoir plein de poussettes, ça garantit qu'autour de la poussette, il y a aussi les grands frères et les générations de 15 à 20 balais. On a aussi les parents, mais on a aussi les grands-parents. Et c'est cette diversité là en fait qui fait la force du festival, puisqu'en fait sur ce territoire, tel que tu pouvais le dire, sur le territoire de Ouest Provence, il y a quelques villes et des équipements culturels qui sont existants, que ce soit du côté d'Istres, de Salon ou de Martigues, mais Miramas est un peu à l'écart. Et en termes d'événementiel, il y a tout à faire à peu près sur ce territoire là et la rencontre entre, on va dire, la municipalité et l'association Nuit Métis, qui est originellement installé à Marseille, qui a depuis migré, c'est justement de travailler à la fois les publics, le grand public, et aussi un territoire à l'année, avec en point d'orgue ce festival.
Comment tu vois, toi, l'évolution vers du point de vue justement de la politique culturelle, et du fait qu'on a l'impression que quand tu sors de Marseille quasiment jusqu'à Arles, enfin entre Marseille et Arles, il n'y a pas rien. Je ne veux pas être méchant avec tous les gens qui vivent par là-bas, mais il y a vraiment une sorte de vide un petit peu, tout est un peu concentré sur Marseille notamment. Tu as des espoirs, tu penses que c'est amené à changer ?
Moi je peux juste me faire l'écho en fait, en étant marseillais, il y a une relative évidence à l'histoire de la métropole, mais après ça dépend ce qu'on met à l'intérieur. Du point de vue des gens de Miramas ou d'Aix, il y a une vraie inquiétude en fait, c'est de disparaître des écrans radars. Quand on parle de disparaître des écrans radars, c'est évidemment pas d'un point de vue... des publics, puisqu'il y a des publics qui habitent là-bas, il y a des gens qui travaillent à l'année, il y a toute une série d'opérateurs culturels qui travaillent là-bas, mais c'est plus en termes de soit de financement ou de médiatisation ou de valorisation en fait de ce qui peut se faire. Clairement, les gens de, par exemple, le maire de Miramas a une grosse inquiétude parce qu'il estime que le maire de Marseille s'est probablement pas placé Miramas sur la carte du département, et donc ça va poser un problème le jour où il va falloir s'asseoir autour d'une table pour discuter de savoir comment on organise la culture ou justement le rapport au public.
Est-ce que ça, en même temps, ça resserre les liens aussi ? Est-ce que ça vous garantit, on parle de Miramas par exemple, disons des conditions de collaboration plutôt favorables du coup, puisqu'ils ont besoin de s'appuyer aussi sur ce que vous faites, que ce soit sur cet événement-là ou aussi sur ce que fait Numétis, puisqu'il y a une programmation à l'année, il y a des ateliers, des choses
comme ça.
Bien
sûr, tout à fait. Alors, c'est une vraie... La condition de réussite de cet événement-là, c'est une collaboration plus qu'active en fait.
Vous êtes plutôt vous êtes du côté des anti-métropoles, quoi.
alors, je ne sais pas comment je dois prendre le vous, parce que... mais non, disons que la métropole, ça dépend ce qu'on met à l'intérieur. Voilà. La grande question, ça sera de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait. De toute manière, elle est en marche et finalement, de fait, elle existe, la métropole, puisqu'il y a des tas de gens qui travaillent à Salon et qui viennent et qui habitent à Marseille et vice-versa. Il y a des gens qui, bon, les allers-retours, que ce soit chez les habitants, que ce soit au niveau des acteurs culturels ou des publics. Ça y est, on a fait une étude de public, par exemple, sur les Numétis l'année dernière, et on a fait 16 000 personnes en 3 jours. On a 50% du public qui vient de l'aire de Ouest-Provence, et après, tout le reste, ça vient soit de l'autre côté du département, soit de Montpellier, d'Avignon, et des choses comme ça. Donc, évidemment qu'on est dans des populations mobiles, et il y a une certaine évidence. Alors, on a des programmations un petit peu d'appel, on va dire, parce que faire Zebda, ça fait particulièrement sens. Alors, c'est vrai qu'à Marseille, on les a vus 50 fois, et on est un peu plus... on a l'impression d'avoir vu ce type de programmation là un peu souvent, mais à Miramas le public n'a pas vraiment eu l'occasion de voir Zebda, surtout en gratuit, donc ça donne un sens particulier, et surtout il y a toute une série de collaborations qui sont menées, que ce soit auprès des artistes musicaux, mais aussi il y a de gros travaux qui sont menés au niveau des arts visuels, avec un travail qui implique à la fois que ce soit les centres sociaux, les centres de vieux Shibani qui sont installés là-bas, comme les collèges, les lycéens et des choses comme ça. Donc il y a vraiment un travail de terrain à l'année. C'est pas simplement une production extérieure qui vient claquer 3 jours et qui repart après. Non, là, il y a un ancrage.
J'ai oublié la question essentielle quand même. Olivier, on boit quoi à l'apéro à Numétis ?
C'est-à-dire que selon le concept même du festival, on commence par un goûter, hein, pour les familles, et donc on attaque par du soft, et petit à petit on va glisser avec la programmation, ça va être sur des choses un peu plus, ça va être de la bière ou des choses comme ça, et puis après on a toute une série de stands qui sont dédiés aux musiques du monde, et là il faut creuser pour trouver des choses intéressantes et voir non identifiées, c'est ça un peu l'intérêt de la découverte.
Musique et alcool du monde, non. Alors... Virgile Arlot, bonsoir, bonjour.
Bonsoir,
merci d'être avec nous. Tu es le Benjamin, c'est comme ça qu'on me dit, hein. 23 ans, l'un des deux organisateurs du festival Believe in Marseille, dont c'est la première édition. Alors, on a un festival qui a 29 ans et un autre dont c'est la première édition cette année. Believe in Marseille, c'est les 20 et 21 juin, ça se passe sur le J4 et c'est une proposition autour des musiques électro et rock qui démarre à 16h de l'après-midi, donc c'est en après-midi et en soirée. Vous frappez fort. Parmi les nouveaux festivals dans ces mouvances musicales-là, vous faites partie de ceux quand même qui frappent là très fort avec la programmation cette année. MGMT, La Femme, Moody Man, Matthew Johnson ou encore Jeff Mills. Tout ça sur une formule qui a fait plutôt ses preuves déjà ailleurs. Gros son, visuel, fast-food de qualité et donc affiche musicale plutôt tendance. Alors, on parlait de Miramas où la moitié de la ville, je crois 50% de la population, vit en dessous du seuil de pauvreté. 40%. Maintenant, on parle... Alors, j'imagine que c'est un petit peu une boutade, une provocation. Avant de te demander pour ce qu'on boit à l'apéro au Festival Believe in Marseille, le tarif, je crois, est à 40 euros la soirée. Donc, c'est là, clairement, vous ne visez peut-être pas le public de la métropole, tout le public de la métropole, mais j'ai l'impression, et dans vos communiqués de presse, on le voit aussi, Vous êtes aussi dans l'idée de viser un public aussi touristique et voilà. qui est attiré par l'image de Marseille extérieure.
Voilà, donc on s'est servi de nos réseaux étudiants pour toucher un maximum d'étrangers, puisque nous, l'objectif principal de ce festival, c'est de mettre en avant le savoir-vivre marseillais. Donc on parle de musique, mais aussi on parle d'autres axes comme la nourriture et l'art. Donc on essaye de mettre en avant un maximum de graffeurs de notre région qui ont vraiment beaucoup de talent. On met aussi en avant une programmation locale en amont de la programmation officielle pour qu'on montre vraiment qu'on a du talent à Marseille. Et pour revenir au prix, c'est le prix justement de toutes ces animations, puisqu'on a vraiment fait en sorte de créer une expérience unique. Maintenant, comme on parle du prix, justement, on est actuellement en train de faire un tarif promo en l'honneur des 1 an du MUCEM. Parce que oui, on a conscience que c'est un prix cher, mais voilà, c'est le prix de ce qu'on est en train de mettre en place, clairement. Et voilà, c'est...
La part artistique, avec les noms que j'ai pu citer, elle doit être assez importante aussi. Est-ce que c'est... J'avais envie de vous demander, je pourrais poser la question aux autres aussi, hein, mais j'ai entendu dire que le budget du festival était autour de 500 000 euros, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Comment il est
ça.
Constitué de fonds publics, de fonds privés, comment est-ce que c'est financé ?
Donc il n'y a aucun fonds public.
Et est-ce que vous prenez des gros risques aussi,
ça ? Voilà, on prend énormément de risques, donc en plus on est une équipe jeune. Il n'y a aucun apport public, puisqu'on est une société et que pour avoir une subvention, il faut être une association. D'autre part, sur la ville de Marseille, il y a une liste des personnes qui sont détenteurs de subventions et on n'y est pas, donc c'est ce qu'on avance depuis le début. On prend énormément de risques et voilà, ce qu'on veut faire vraiment, nous on a créé ce festival par amour pour notre ville et c'est pour ça qu'on met en avant l'art, la nourriture et les boissons qui sont 100% locales comme l'art aussi, puisque les graffeurs sont vraiment des graphistes de la région. Ce qu'on veut vraiment jouer, c'est la carte marseillaise à fond. Voilà.
Vous avez une vraie contrainte sur la rentabilité aussi de votre objet, j'imagine. Là, vous n'avez pas trop le choix, quoi.
Oui, tout à fait. On a une vraie contrainte. Mais après, voilà, nous, notre objectif principal, c'est de réaliser une grande fête marseillaise. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a effectué ce tarif promo, pour vraiment que ça devienne une fête marseillaise. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce nom Believe in Marseille, puisque aujourd'hui on est en 2014, 2013 c'est fini. Et pour nous, ce festival, c'est un moyen de crier haut et fort qu'il faut continuer sur la voie qu'a montré MP 2013 l'année dernière.
Qu'est-ce qu'on boit à l'apéro à Believe in Marseille ?
Alors on boit une pinte de 40 centilitres à 3 euros.
Pas mal, ça c'est un bon argument de vente, bravo. Bravo, et je passe maintenant la parole à Olivier Cardudo. Salut Olivier.
Hello.
Qui a une double casquette là, en même temps Radio Grenouille, dont tu es résident avec ton émission Amateurisme, sous ton pseudo de DJ l'amateur. Et tu as travaillé pour la radio sur la programmation des toits terrasses à la Friche Belle de Mai pendant le mois d'août qui va venir, puisque pendant 2 mois, les toits terrasses vont être animés par des artistes programmés par le Cabaret Aléatoire et Radio Grenouille. Tu pourras peut-être nous en dire 2 mots. Et puis, tu travailles aussi depuis plusieurs années avec le Midi Festival, qui se déroule sur une formule un petit peu réduite cette année, 25 et 26 juillet, 2 jours, mais seulement à la Villa Noailles, le lieu historique, avec des groupes comme cette année François and the Atlas Mountain, Panda Beer, Childhood, et pas mal, comme chaque année, c'est un peu votre marque de fabrique, de découverte pop, rock et électro. C'est quoi, à quoi sont dues les difficultés financières ? C'est le bilan de 2013 qui a créé les difficultés financières du Midi Festival, des subventions en baisse, d'autres raisons ?
C'est un peu tout ça, ouais. C'est un peu tout ça. Et pas uniquement 2013, c'était aussi depuis les années précédentes, ça a commencé à s'accumuler. Et donc voilà, c'est un peu la ceinture cette année pour le 10e anniversaire, malheureusement. Donc c'est un peu triste de fêter ce 10e anniversaire de Midi Festival dans ces conditions. Mais Midi Festival est toujours là à la Villa Noailles, qui est un peu le lieu emblématique du festival.
Hein, hier, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas précisé.
On a connu les anciens avec Aquaplanning, par exemple, qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc un lieu patrimonial, naturel aussi, parce que c'est une pinède. Et voilà, qui est un peu limité par la jauge, c'est pour ça qu'on était parti sur l'hippodrome depuis 2-3 ans là, pour avoir des jauges un peu supérieures. Mais cette année, voilà, on va quand même se faire énormément plaisir avec une belle programmation, beaucoup de newcomers, comme on dit, donc plutôt des découvertes. Des gens, même moi, là, je ne connais pas encore toute la programmation, moi je m'occupe plutôt des événements électroniques, donc je vais découvrir encore des choses sur scène. John Wizard notamment, qui vient d'Afrique du Sud par exemple, d'Afrique du Sud, c'est plutôt étonnant. Aydres par exemple aussi, qui est installé en Angleterre mais qui est d'origine philippine. Voilà des choses, c'est pas des musiques du monde, mais quasiment, voilà, c'est la pop du monde un peu quoi. Et donc c'est le 25 et 26 juillet. Moi je m'occupe d'habitude de la programmation des after électro qui avait lieu sur la plage, mais voilà, comme c'est un peu le... un peu strict financièrement cette année, ce sera uniquement donc à la Villa Noailles. Il y aura peut-être un petit after comme ça, une petite surprise. Et il y aura également pour tous les gens qui participent donc à la campagne, il y a une campagne de soutien qui est lancée depuis quelques jours. Vous aurez tous les renseignements sur la page du site Midi Festival. Tous les gens qui participent auront droit de devenir un showcase, enfin un live voilà, réservé aux gens qui aident le festival, qui va inviter Ménage à Trois. Ménage à Trois, c'est un groupe qui vient de Manchester, une ville évidemment qui nous porte, qui nous tient à cœur. C'est des gens issus de Woolleaf et de Los Porcos. Donc c'est vraiment la nouvelle scène de Manchester. C'est de la pop adorable qui va bercer votre été et que vous allez connaître très bientôt sur les ondes de Grenouillet d'ailleurs, j'en suis sûr.
En bon programmateur, tu t'es étendu sur la programmation. Sinon, qu'est-ce qu'on boit au Midi Festival
à l'apéro ? On boit du bon rosé varois, évidemment, bien frais. Est-ce que vous voulez aussi, non ?
Toi qui tu as travaillé sur la programmation des Toits Terrasses de la Friche aussi l'année dernière, ouais. Et sur celle à venir cette année, qu'est-ce que tu penses de alors ce nouveau lieu un petit peu où il y a des soirées un peu tendance, soirées rooftop, là, c'est le nouveau terme à la mode, situé en plein milieu d'un des arrondissements les plus pauvres de Marseille, voire de France. C'est quoi le public qui vient à la Friche sur ces soirées-là? Est-ce que ça reste un peu plutôt de l'entre-soi culturel-cultureux ou est-ce que l'ouverture sur le quartier te semble être un petit peu au moins une réalité au jour d'aujourd'hui sur,
Ouais, d'après mes souvenirs de l'été dernier, il y avait vraiment... En plus, c'est gratuit, c'est en plein air. Il y avait un public assez familial en début de soirée. Ça prenait une ampleur un peu plus festive, voilà, une fois que la nuit tombait. Mais je trouvais qu'il y avait un bon mélange des gens, voilà, avec beaucoup de place. La place pour jouer, pour les enfants, des transats. Il y avait, je crois, un bon mélange de population, voilà, de mélomanes et de gens plus curieux, voilà, qui passaient dans le quartier. En plus, il y a des expos aussi maintenant à la Friche. Donc, il y a aussi des gens qui viennent profiter des expos l'après-midi et qui traînent un peu sur le toit-terrasse de la Friche après pour profiter de ces débuts de soirée.
On parlait de rentabilité, de contraintes avec Believe in Marseille. On parlait du Midi Festival où d'autres problèmes financiers ont modifié l'édition de cette année 2014. Globalement, les festivals, c'est plus facile pour les pouvoirs publics ou pour une collectivité territoriale ou une mairie d'annuler un festival que de fermer un lieu de musique qui programme au long de l'année. Donc, les festivals sont des choses un petit peu fragiles aussi. C'est quoi pour vous les conditions pour arriver à, justement à pérenniser et à installer un festival dans le paysage ?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part l'identité de la programmation. C'est quand même hyper important parce que c'est ce qui permet de constituer un public. Nous, le Festival Mimi, on reçoit des soutiens des collectivités territoriales et de l'État avec la DRAC. La part diminue de plus en plus. Donc, on est de plus en plus confrontés à des besoins de rentabilité, c'est clair. Mais ça nous permet d'avoir des tarifs extrêmement attractifs. C'est 20 euros la soirée avec le bateau compris qui est déjà lui-même à 8 euros. Donc vous faites le calcul. Si on n'avait pas de soutien de la part des collectivités, ce ne serait pas possible. C'est ce qui nous permet aussi de maintenir notre identité de programmation. Le festival, il a 29 ans. Il a toujours essayé de garder en tout cas un travail de défrichage et de recherche qui soit le plus on va dire pointu et le plus honnête possible. Et c'est ça qui crée aussi, je pense, la durabilité des festivals. L'accueil aussi beaucoup. Je pense que la manière dont on accueille les gens, c'est extrêmement important. Nous, on est... cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur plusieurs lieux. Des lieux qu'on a choisis aussi pour leur accueil. Hypercut, qui est un petit lieu qui a ouvert cette année, qui a des conditions de son qui ont été très travaillées. Ils ont mis énormément d'argent. C'est d'ailleurs une initiative totalement privée. Ils ne sont pas du tout soutenus. Donc moi, je les soutiens et toute l'équipe du festival, on les soutient parce qu'il faut un vrai travail et d'accueil et de programmation, avec aussi une restauration, une qualité des vins qui est proposée avec beaucoup de sérieux. La Friche, les grands plateaux, la nouvelle salle est merveilleuse et pareil, avec des qualités de son qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis après, on est au Frioul, donc c'est pareil, on invite les gens à un voyage. Ça a beaucoup participé à la fidélisation et au renouvellement du public. On arrive sur un lieu qui est quand même assez magique, très contraignant, parce qu'on est en milieu lieu de parc national, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une organisation qui est très compliquée, on est contraint par des normes de protection de l'environnement et on travaille là-dessus avec beaucoup de sérieux, maintenant avec le parc national, avant avec la ville. Et c'est aussi pour ça qu'on est l'un des fondateurs du collectif COFIS, parce que c'est au-delà du côté Greenwatch qu'on pourrait impliquer, qu'on pourrait donner au festival. Il y a vraiment un travail de fond qui est mené, y compris sur l'action culturelle, on appelle ça comme ça, bon, l'action culturelle, en tout cas la médiation. Ça paraît étonnant, mais tout le travail qu'on fait avec Village Hip Hop, on essaye de le relier au maximum avec Mimi. Donc on travaille sur des esthétiques qui sont très pointues, mais l'idée c'est aussi d'amener ces nouveaux publics et ces jeunes qui travaillent sur des musiques dites urbaines, À ouvrir un petit peu leur champ d'exploration et de peut-être venir s'inspirer de choses plus expérimentales pour renouveler des genres musicaux.
Est-ce que l'action à l'année de l'AMI ?
Bien sûr, j'allais y venir. Ouais.
Autour de l'action culturelle, de la couveuse cadeau, globalement du fait d'être identifié comme un acteur culturel dont l'objet principal, c'est un peu de contribuer à la structuration du secteur, on va dire, pour aller vite.
Tout à fait.
Est-ce que ça assure aussi la pérennité de l'objet festival ?
En tout cas, ça fait partie d'un circuit intégré, si je puis dire. Le festival Mimi, c'est un des éléments du projet de l'AMI dans son ensemble. On travaille vraiment à l'accompagnement des artistes dans les studios de répétition, à l'accompagnement des producteurs avec la plateforme Dynamo, donc la couveuse et aussi l'hôtel de compagnie artistique. On travaille aussi sur l'accompagnement d'artistes et de collectifs artistiques. Et ce travail de programmation que l'on fait, par exemple sur la programmation du festival, on implique beaucoup les artistes locaux. Et l'idée, c'est de les accompagner aussi à pouvoir prendre des risques, tout en restant viable économiquement. Donc on s'inspire un peu de notre expérience, hein, puisque quelque part, c'est aussi ce qu'a été le projet de l'AMI. Le festival Mimi étant l'objet fondateur de l'association. Et quelque part, tout a découlé de ça. Comment on pérennise le festival Mimi, comment on soutient les artistes qui prennent des risques, qui sont sur des propos artistiques qui sont peut-être pas très mainstream, comme on pourrait dire. Et de là découle le projet de l'AMI. Donc Mimi, c'est une finalité, y compris aussi en termes de médiation, en termes d'éducation artistique, si je puis dire, mais au sens vraiment noble du terme, quoi. C'est pas dire c'est ces musiques là qu'il faut faire, c'est voilà, il y a des artistes qui prennent des risques, qui vont défricher des champs artistiques, et vous pouvez faire du hip hop et faire la même chose. Ça peut être intéressant d'aller écouter un concert de rock expérimental, et on constate que ça fonctionne, en fait. Donc voilà,
ce lien entre enracinement des festivals tout au long de l'année, action culturelle, tout ça, et pérennité de l'objet festival lui-même. C'est un des ingrédients, selon Emmanuel Négrier, qui est chercheur au CNRS et qui a sorti un bouquin à l'orée de la décennie qui s'appelle « Le public des festivals ». C'est une des conditions, selon lui, pour que les festivals puissent se pérenniser, en fait. C'est-à-dire s'inscrire vraiment dans une politique culturelle qui est tout au long de l'année. Alors, notre région, je crois que c'est la première ou deuxième région en termes de nombre de festivals organisés. Il y a 150 festivals dans la région PACA tout au long de l'année. Globalement, plus les régions sont peuplées, plus il y a de tourisme, plus il y a de festivals, évidemment. Et les deux tiers des festivals ont lieu en été, j'imagine encore plus dans la région PACA, même si je n'ai pas les chiffres, avec quelques festivals comme le Festival d'Aix, le Festival de Cannes ou le Festival d'Avignon, qui ont des dimensions vraiment internationales. Les festivals aussi, note Emmanuel Négrier, mais c'est des choses qu'on retrouve dans les analyses, dans le rapport de la SACEM, par exemple, ou des études qui ont été faites au niveau européen. C'est aussi un renouvellement du public. Certains festivals vont jusqu'à 40% de renouvellement du public. Et c'est vrai que leur multiplication aujourd'hui pourrait laisser penser que c'est un phénomène récent. Mais bon, ça date déjà il y a au moins 20-30 ans. Il y a eu tout un mouvement avec des politiques culturelles fortes, des acteurs associatifs qui se sont ensuite impliqués en deuxième temps. Et aujourd'hui, pas mal d'acteurs privés qui aussi investissent dans le festival, qui est devenu aussi une économie rentable. Qui fait qu'aujourd'hui, en effet, on se retrouve avec tout un tas de festivals extrêmement divers, que ce soit en termes de taille, de budget, de propositions artistiques, etc. En tout cas, leur contribution à la valeur ajoutée de la culture pour l'économie est sans doute indéniable. Ceci dit, j'ai envie de vous, juste avant qu'on fasse une petite pause musicale peut-être, j'ai envie de vous lancer un dernier mot comme ça et de voir si ça vous fait réagir. C'est ce terme qu'on entend de plus en plus souvent dans les études et sous les mots de certains universitaires, analystes, c'est celui de festivalisation de la culture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il n'y a plus que des festivals, quoi. Et même, il y a vraiment un vrai manque de lieux qui programment à l'année. Et il y a de plus en plus de festivals. Pour prendre un exemple un peu extrême, une ville comme Berlin, qui est connue comme un centre de création culturelle très important, a conçu sa réputation et son activité culturelle et touristique sur le fait qu'il n'y a pas un mois à Berlin sans qu'il y ait un énorme festival, voire plusieurs. Donc, festivalisation de la culture, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Dans l'étymologie, juste un dernier truc, mais la fête... Dans l'étymologie, ça vient du latin, ça vient du latin, et ça désigne un jour de fête. Donc c'est un jour particulier. Est-ce qu'au bout d'un moment, à force de pas être tout le temps dans cette ambiance festivalière, est-ce qu'on risque pas de perdre le sens de la fête ? Je sais pas. Quelqu'un veut réagir à ça ? Élodie, encore toi.
Nous, en tout cas, je vais être courte pour laisser la parole à mes collègues. En tout cas, nous, on a un projet à l'année et l'idée, c'est aussi de soutenir des producteurs qui font vivre la ville à l'année. Il y a aussi des programmateurs, des lieux. Et la raison pour laquelle on est aussi sur un temps donné, c'est que notre métier n'est pas que la diffusion. Donc il y a l'idée de laisser la place à tout le monde et qu'en plus ces esthétiques, si on veut toucher un maximum de monde, tous les jours à l'année, on ne va pas être sur les jauges qu'on a dans le cadre du festival. Et encore une fois, nous, ça s'appuie vraiment sur une action à l'année, comme tu le disais, Olivier. Donc la question de la festivalisation, moi, je vais pouvoir répondre qu'à ce niveau-là.
Une autre réaction à ce terme de festivalisation, Olivier ?
Olivier, moi, c'est juste par rapport à la... À l'exemple que j'ai sous les yeux, que ce soit à Miramas ou à Aix, pour Miramas, le festival, en l'occurrence, c'est juste l'événementiel qui vient consacrer une année de travail auprès des ateliers, de tous les publics. L'idée, c'est que nous, on va travailler des publics qui, habituellement, n'ont pas pratiquement de pratiques culturelles. Qui vont pas au festival, justement. On va toucher pendant tout au long de l'année dans les centres sociaux ou dans les quartiers en faisant des fêtes de quartier, en faisant de la sensibilisation ou des repas de quartier, en y mettant de la musique, en y intégrant des groupes qui sont dans la programmation finale du festival. On fait un travail de défricheur d'une certaine manière et surtout on vient démystifier un petit peu auprès de certains publics ce que peut être la culture ou les festivals. C'est-à-dire qu'on retrouve à New Métis des gens qui, généralement, ne vont jamais au théâtre, ne vont jamais voir un concert. Et nous, notre enjeu, il se situe là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a des publics qui vont venir pour des têtes d'affiches, qui sont des publics qui sont habitués en fait à l'usage et à l'utilisation des festivals. Mais une grande partie de notre public, ce sont justement, on reste dans le côté, c'est la fête populaire à l'ancienne, quoi. La fête du village, on est dans la gratuité. Et alors la gratuité pose d'autres questions en fait, hein, c'est pas non plus la panacée, mais sur certains territoires c'est tout à fait justifié. Pour juste faire la petite liaison avec l'autre événement pour lequel je travaille, qui est le Zigzag Festival, ça a été gratuit pendant très longtemps au Jazz de Bouffant, donc qui est un quartier qui a 35 000 habitants à Aix, donc c'est une petite ville, c'est déjà plus grand que Miramas par exemple. Ça a été en gratuit là, puis après le festival a été itinérant pendant une dizaine d'années où c'est passé en payant, avec en rentrant dans une logique justement festivalière. Et on revient cette année sur de la gratuité parce qu'on revient du côté de Jazz de Bouffant. Et évidemment, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi selon l'endroit qu'on vient occuper. Et entre guillemets, cette occupation-là, elle se fait avec les gens et avec les habitants pour qu'ils soutiennent ça. C'est pour ça qu'il y a toute une série de choses, notamment on a travaillé sur des autoportraits du côté de Miramas où on demande aux habitants de créer leur propre, de faire leur autoportrait. Et en fait, on crée des grandes structures qui illuminent, en fait, qui illuminent le site. Et on voit le grand-père autant que le petit-fils se balader autour de la déco pour retrouver leur portrait. C'est ça l'idée, c'est de rassembler ces générations-là. Voilà. Sur ces territoires-là, ça a un impact, c'est très très fort. C'est beaucoup plus fort que certaines actions politiques de base, quoi.
Et on est loin d'une festivalisation outrancière sur ces territoires.
C'est la rareté. Là, pour le coup, si New Métis, ça fonctionne, c'est parce que justement, c'est le rendez-vous de l'année. Il n'y a pas de concurrence absolue à côté.
Virgile Arlot, alors moi, Believe in Marseille.
Alors, je trouve normal qu'on parle de festivalisation de la culture, puisque un festival, c'est justement un grand rassemblement. D'autre part, il y a toujours une grosse demande sur ce point-là, et il y a encore une fois toujours des nouveaux publics. Qui sont toujours intéressés par la musique, et c'est un grand rassemblement où on a la possibilité justement de mettre en avant des points forts de notre culture locale ou pas, ou d'autres cultures. Et c'est pour ça qu'on parle de festivalisation de la culture, selon moi, parce que prenons l'exemple de Billy de Marseille, on a d'abord travaillé la programmation et ensuite on s'est attaché à d'autres points du savoir-vivre marseillais qui est tout particulier et qui est, je trouve, important de mettre en avant.
Olivier, une réaction à ce terme
On adorait avoir un lieu pérenne, une sorte de midi-tech ouvert toute l'année pour proposer tous les groupes qu'on a envie de programmer. Mais on le fait, le mini-festival, ce n'est pas uniquement deux dates, trois dates l'été, c'est aussi des dates régulières sur Toulon. Sur Marseille aussi, l'année dernière, on est venu par deux fois au Cabaret Aléatoire pour des mini-nights. On vient aussi demain soir, donc le 14 juin, sur le rooftop, donc où je travaille pour Radio Grenouille, mais aussi donc demain pour mini-festival avec Ricor, Johnny Hawaii, le Marseillais, et les sélecteurs de midi, et moi-même au platine.
Samedi 14. Hein.
Ouais, samedi 14, c'est gratuit, sur le rooftop de la Friche. Donc voilà, non, c'est pas uniquement trois jours de fête l'été, c'est midi, c'est un état d'esprit toute l'année, et des événements réguliers, avec beaucoup de locaux, où on met plus en valeur les locaux sur les petits événements à Toulon, à Marseille et ailleurs. Ouais.
Je reviens vers toi, Virgile, parce qu'on parlait de cette histoire de pérennisation des festivals. Elodie Kellar représente un festival qui a 29 ans, on parle de Nu Métis qui est aussi autour de 21, Billy Vin Marseille, vous êtes les premiers. Qu'est-ce que tu penses des réflexions qu'il y a eu autour de cette idée de comment on fait durer un festival? Alors on l'a compris, vous voulez mettre la culture en avant aussi. En même temps, pour l'instant, votre pérennisation, elle passe surtout, pour la deuxième édition, j'imagine, par la rentabilité. Est-ce que vous avez d'autres idées derrière?
Alors je pense que la pérennisation d'un lieu, d'un événement, elle se fait avec son public, le public qu'elle s'octroie. Donc c'est à nous maintenant, avec notre programmation, de plaire et de proposer une expérience unique. Et je pense que c'est la réussite de cette première édition qui fera justement la pérennisation. On a plein d'autres idées.
Il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine, ne serait-ce qu'en région. Hein, je pense
Il y a énormément.
Les lives au Pont du Gard, je pense aux plages électroniques. Alors c'est pas exactement les mêmes esthétiques, tout ça, mais enfin... C'est quand même, globalement, ça peut s'adresser au même public. Vous arrivez sur un terrain déjà où il y a pas mal de monde.
Oui, on en a conscience. Maintenant, vous parlez de concurrence, pas forcément de notre point de vue, parce que justement, pour nous, c'est des exemples. C'est grâce à des festivals comme justement les Ponts du Gard qu'on a eu envie de construire quelque chose et de participer justement à la culture de notre ville.
Je vous propose une petite pause musicale avant de retrouver nos invités. On est toujours au Petit Pavillon pour... le premier des apéros de Radio Grenouille qui vont durer tout l'été, chaque vendredi soir. Et c'est la spéciale festival, l'émission spéciale L'été de la Grenouille. On écoute une sélection de RAF qui prendra les platines juste après cet enregistrement.
Flow is fat like Joe. Like Joe. Yo, nigga, they know that I'm back, man. You're whack, man. I eat a rapper like I'm Pac-Man. I figured they bring it straight from the cellar. Varela, pack it, more hits the loop, Pinella. I swella, nigga, in his eye. If he tests me, you don't impress me. Yeah, yo, books kick the rest, G. One time for your mind. Hey, yo, what up? It's the crew bringing the ruckus. Yeah. No doubt we's the roughest dream team. Reign supreme like a cutlass getting duckers. The dope, you can't touch the flow. No. It's me, the nigga with G, the B. So say yes and bust your caliber when I pop shit and rock shit like Metallica. Stings through the heart, tell them snake fake niggas. Them all up in my face, jealous of my tape niggas. So honey, shake your fingers and show me what you got. Blow the spine, Dots Flex with the real hip hop. Hip hop, to the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop, Dots Flex with the real hip hop. Hip hop, to the hip, dip, the hop, you don't quit. Don't quit, Dots Flex, we came to rip shit. Rip shit, to the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop, Dots Flex with the real. Let rush it through your body. You hit my thing to feel like riding like powder. I'm back up in that ass, G Kaplow. And now we got the game to a T like how. Allow me to introduce myself and my peeps. Straight from the sewer, staying true to the streets. Well, it be me, Crazy Drace, bringing up the rear. I swear, we got to hold it down there, yeah. So there, now let me crack a beer, kick my feet up, turn the heat up, and spiggity smoke all the weed up. Kids, I eat up with a style that's the newest. My crew is
So it's time you see me on the top. So stop and recognize the niggas on your block. On the block. To the hip, the hop, you don't stop. Don't stop. That's a flex. And delicate to the texture, but this style of mine is well-defined like Webster's. Ain't about a nigga roaring from the Jordan, the Jabba Jibba, when I get stoned like Sharon from Slipper. Equipped to rickety rip the microphone to stretch. Dread, yo, come and hit these niggas in the head. Connect my rhymes like Lego, so let go my ego. I burn you like Waco, you need more than Mako. I take it to your crew and keep it moving like a U-Haul. I'm here to school y'all, picking these faggots like RuPaul. I throw a screwball and strike out the MC. And if he tempts me, I knock him out like Jack Dempsey. I burn some sensei, then chase it with a Guinness. The illest, now hit me with the hook because I'm finished. To the hip, the hop, you don't stop, don't stop. That's a flex with the real hip hop, hip hop. To the hip, the hop, you don't quit.
L'été de la grenouille, l'été des festivals, on se pose quelques questions sérieuses, mais à la cool, ici au Petit Pavillon, pour cette première apéro de Radio Grenouille au 54 Corniche Kennedy. On se retrouvera tous les vendredis. À l'instant, c'était une sélection de RAF. On va y revenir dans un instant. Je voulais passer le micro alors qu'une petite brise vient enfin nous rafraîchir ici, voire faire voler les verres vides. Passer le micro à Olivier, dit l'amateur, qui doit nous laisser juste après pour peut-être faire une petite incise un peu auto-promo et nous dire quelques mots, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, de la programmation de ce qui est presque une sorte de mini-festival sur le rooftop, le toit-terrasse de la Friche, où la programmation a été confiée en juillet au Cabaret Aléatoire et en août à Radio Grenouille. Et c'est toi qui t'en es occupé pour les 3-8. Olivier, qu'est-ce que tu nous as concocté ?
Alors, on a monté le son donc sur le rooftop tous les vendredis, samedis du mois d'août.
Ça s'appelle On Air.
On Air, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Petit clin d'œil à notre activité radiophonique. On a programmé des collectifs, des festivals qui viennent de France, d'Angleterre. Il y aura peut-être un espagnol aussi. Alors, je peux vous laisser quelques noms parce que la programmation est quasi finie, mais ouais, il y a encore deux trois surprises à boucler là, dans les jours qui viennent. Un label comme Music Large, qui est vraiment le label qui monte pour moi, mon esprit entre hip-hop, funk et électronique.
Label
parisien avec un très beau live de Baron Rétif qu'on avait déjà vu la dernière à Air Libre, pour du funk vraiment expérimental, assez intéressant. Un mec comme Arthur King aussi, un DJ hip-hop, mais dans le sens très ouvert, très festif, qui sera là aussi pour la dernière le 30 août. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, Rince FM aussi, la radio pirate anglaise qui s'installe à Paris depuis quelques mois là, qui va nous envoyer quelques-uns de ses meilleurs représentants. Voilà, des petites choses comme ça plutôt agréables et gratuites les vendredis et samedis du mois d'août sur le toit terrasse de la Friche
entre 19 et 23h et vous retrouvez toutes les infos sur le site de la Friche ou le site de Radio Grenouille.
Ça va arriver très vite, ouais. Dès la semaine prochaine, voilà. Vous aurez beaucoup d'infos et tout le programme détaillé.
Merci Olivier, mission accomplie. Pour ce qui est de l'autopromo, tu peux disposer.
Merci, voilà. Bonne émission, à bientôt. Voilà,
merci. On vient d'écouter DACFX, ça me fait penser que pendant maintenant presque des décennies, Marseille a été connue au niveau international, que vous alliez aux États-Unis, au centre du continent africain pour son hip-hop plutôt hardcore et engagé. Est-ce que Marseille est en passe d'être plutôt connue pour sa riviera, ses musées et son attrait touristique plus que pour sa scène hip-hop underground ? Et qu'est-ce que vous pensez de cette évolution, les uns et les autres? J'ai entendu quelqu'un qui bosse un peu dans le milieu du tourisme se réjouir en disant « ça y est, 2013 c'était un peu le galop d'essai, ça y est 2014 les touristes vont vraiment arriver, Marseille est enfin inscrite sur la carte internationale des villes fréquentables pour le touriste un petit peu argenté ». Alors, je ne sais pas si c'est vrai, à vérifier.
Alors,
en tout cas,
déjà, pour parler, je ne parle pas au nom du hip-hop underground marseillais, mais il y en a un, et qui est super actif depuis 2013 d'ailleurs, puisqu'il a été un petit peu exclu, donc du coup, il s'est réveillé, et c'est une bonne chose. Il y a un grand concours national qui s'appelle le Buzz Booster qui a été gagné par un Marseillais, c'est la première fois, qui s'appelle Xir Makossa. Donc voilà, petite parenthèse, l'underground hip-hop marseillais n'est pas mort, loin de là. Après, la dimension touristique, bah, y a les moyens qui ont été mis quand même.
Ça, c'est sûr.
Voilà, y a un accueil qui est différent. La rénovation du centre-ville, c'est sûr que ça fait que la fréquentation de cette ville est peut-être un petit peu plus facile, bien que ça peut aussi manquer de charme pour certains.
Mimi, avec le cadre assez spécial de l'hôpital Caroline, sur les îles du Frioul... qui joue beaucoup pour l'attractivité du festival aussi, il faut le dire.
C'est clair.
Vous allez plutôt profiter de cette vague touristique massive si elle a lieu.
Alors, on fait des études des publics depuis 29 ans. Tu t'imagines pas le nombre d'études des publics qui ont été faites. Il faut savoir que le festival a eu lieu dans plein d'autres endroits et pas à Marseille. On a toujours eu un public international parce qu'on a une affiche assez particulière. Là, le concert de Suicide, on sait déjà, parce que maintenant, avec Big Brother, on arrive à savoir qui achète où les places, qu'il va y avoir du public étranger sur cette date qui est un peu unique en Europe. Il n'y en aura que trois en Europe. Il y en aura une à Paris, une en Angleterre et une à Marseille. Donc, ça va faire venir du public étranger. Maintenant, est-ce que le public dit touristique va venir au Festival Mimi ? Ça reste à prouver. On va continuer à faire ces études du public. Nous, ça touche quand même beaucoup des Parisiens. Donc on peut considérer que c'est du tourisme. Et puis évidemment, des Marseillais, il y a, on va dire, 60% du public qui est Marseillais.
Il y a un côté presque familial, non aussi.
Tout à fait. Ouais. On a un public...
Avec un public qui revient.
Oui, qui revient et très intergénérationnel. Le gros du public, il a entre 30 et 45 ans. Mais voilà, on a aussi des jeunes, de plus en plus de jeunes. Donc ça, c'est chouette. Et puis on a la génération des fidèles. Des activistes qui se reconnaissent dans la programmation du festival, qui le suivent depuis, pour certains, on en connaît d'ailleurs, 29 ans.
Virgile, qu'est-ce que vous êtes en première ligne pour vous adresser à ce public éventuel de touristes internationaux qui voyagent entre Barcelone. Bon, Barcelone, c'est plus trop vraiment in, quoi, hein, Berlin encore un peu, ou ailleurs. Là, on est au moment où on enregistre cette émission, à une semaine de l'événement. J'imagine qu'en termes de prévente, est-ce que vous avez déjà des infos sur d'où vient le public, est-ce que ça répond à votre communication, à votre programmation en termes de fréquentation à prévoir?
Donc voilà, nous, en tant qu'étudiants, on a essayé de toucher au maximum les universités étrangères en listant les villes où il y a vraiment une influence dans ce type d'événement, comme Londres, Barcelone et Bruxelles. Moi, je pense que vraiment, le festival, c'est une opportunité pour notre ville d'être encore plus attractif parce qu'il y a véritablement des touristes qui se déplacent uniquement pour ça. Et encore une fois, je pense que notre région a des lieux à mettre en avant et c'est en mettant ces lieux en avant qu'on peut être encore plus attractif. C'est pour ça que nous, on a d'ailleurs choisi ce lieu qui est l'Esplanade du J4, qui est représentatif de l'évolution de notre ville et qui surtout est un lieu magnifique entre ciel et mer. Voilà.
Olivier, t'as une réflexion par rapport à ça ou
C'est-à-dire que j'ai l'impression...
En tant que Marseillais quand même, même si tu travailles sur d'autres territoires, pour ce qui est de ton travail de communication et de relations presse sur le Zigzag ou le
Numétis. J'ai l'impression que je ne fais pas exactement la même discipline en fait. C'est-à-dire que moi, le touriste qui vient pour 3 jours, le City Breakers, etc., ce n'est pas exactement mon, entre guillemets, cœur de cible. Et peut-être que ma modération, elle vient aussi par rapport à l'histoire de 2013 aussi, mais ça n'engage peut-être que moi. C'est-à-dire que l'opération de capitale européenne, c'est ce qu'ils ont fait à peu près partout. Liverpool, Gênes, c'est la requalification urbaine en tout premier. Après, la culture, c'est un peu le bélier pour faire rentrer l'histoire. Mais si on fait un petit état des lieux, des opérateurs culturels, de ceux qui font vivre l'histoire, et tout le maillage associatif aussi qui vient pour soutenir les artistes, qui vient travailler des publics, des esthétiques compliquées, etc. Peut-être que je ne connais pas les bonnes personnes, mais en tout cas, toutes les personnes que je connais, beaucoup ont été impactées par ce côté côté là, on parlait de la festivalisation de la culture. Bon, ben là c'était pas la festivalisation, mais on peut faire une espèce de projection en disant que oui, on a fait une espèce de gros coup de projecteur sur une année, sans vraiment réfléchir à ceux qui font les fondations en fait de cette histoire là. Alors le but du jeu, c'est pas forcément de dénigrer ce qui se fait, les nouveautés, au contraire, il faut de l'air frais, il faut des choses nouvelles, mais l'alignement sur sur les grandes métropoles européennes, je ne sais pas si c'est exactement la solution ou un truc à viser à long terme, parce qu'en fait on sera probablement toujours à la ramasse de ces grandes métropoles que sont Barcelone, Berlin, et on a peut-être autre chose à inventer, à créer. On a peut-être des spécificités. Mimi travaille avec quelque chose qui est très pointu sur des musiques. Probablement qu'on ne trouve pas ça partout ailleurs, mais cette singularité-là, elle compte. Peut-être qu'on a... peut-être que mon statut fait, en travaillant avec beaucoup de festivals dits de musique du monde, mais bon, même si ce concept-là ne veut plus trop rien dire, en fait, toutes les musiques sont du monde. La pop péruvienne ou l'électro sud-africaine, c'est des musiques du monde, quoi, sans souci.
On est bien d'accord.
C'est là où il y a un mouvement, d'ailleurs... mondial, c'est-à-dire que la question des musiques du monde, ça, c'est une entrée intéressante, puisque de toute façon toutes les esthétiques appartiennent au monde, et la mondialisation a beaucoup de défauts, mais elle a aussi cette qualité.
Honnêtement, est-ce qu'on n'a pas quelque chose aussi à créer ou à inventer ici? Par ailleurs, je travaille pour d'autres manifestations, comme des choses comme la Fiesta des Sud ou le Babel Men Music. Beaucoup de journalistes ou de professionnels étrangers que je peux recevoir à cette occasion-là, les gens viennent parce qu'ils ont la sensation qu'ici, on est une espèce de phare avancé sur la Méditerranée, et qu'on a une vision qui est un peu plus affinée que les diasporas qui sont installées à Bruxelles ou à Londres, qu'on arrive ici des choses qui ne sont pas encore formatées ou qui sont en cours... voilà, il y a une espèce de... C'est dans le laboratoire et prêt à se lancer sur le marché européen. C'est pas un passé dans la moulinette du mainstream, de la grande world music version anglo-saxonne. Il y a peut-être des trucs à cogiter là-dessus, parce que finalement, ça... C'est ce que la ville est aussi, hein. C'est pas que ça, on est d'accord, les communautés, etc. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça, et c'est peut-être quelque chose qui est un peu... pas forcément valorisé. Il y a des gens qui le font, mais c'est un petit peu...
Virgile, c'est un peu confus. Virgile de Believe in Marcy, tu veux réagir là-dessus? Oui. Et peut-être aussi, une dernière question, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Vous n'avez pas peur d'être un peu taxé, justement, par rapport à ce qu'on disait, d'opportunisme, un petit peu, par rapport à ce côté touristique, où vous visez un public très ciblé, plutôt jeune, qui a de l'argent, et pas, même si ce n'était pas du tout l'intention d'Olivier de vous cibler, vous,
pas du tout
particulièrement, mais disons qu'il parlait d'un mouvement général qui est un petit peu celui d'une normalisation de Marseille vis-à-vis d'autres villes européennes, notamment, voilà, où s'organise déjà le type d'événement aussi que vous voulez proposer. Alors, est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur de vous inscrire dans quelque chose où vous seriez éventuellement taxé un peu d'opportunisme ou de... Alors, de surfer sur une vague un peu facile, quoi.
Alors non, je vous rassure, elle n'est pas du tout facile, cette vague-là.
Ouais.
Et pas du tout. Et on parle de normalisation musicale. Donc oui, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment une programmation d'envergure pour mettre en avant la ville. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est justement, je résiste sur ça, c'est pour ça qu'on a sorti des cartes comme le local, l'art et la nourriture. Moi, je pense qu'il y a vraiment déjà, pour revenir sur le tourisme, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de talents à Marseille qui ne sont pas assez mis en avant, clairement. C'est pour ça qu'on a voulu créer un DJ Contest, mettre en avant les DJ locaux avant la programmation officielle, puisque ça leur permet d'être, ça leur sert de vitrine. Et je pense que justement, voilà, il y a plusieurs facettes à mettre en avant, et c'est pour ça qu'encore une fois, je le dis, on veut mettre en avant le savoir-vivre marseillais qui, lui, n'est pas normal, clairement.
Pas encore normalisé. Élodie, un dernier mot ?
Oui, je voulais rajouter quelque chose. Faut faire attention à la question de l'opposition entre un modèle ou un autre, une manière de faire de la diffusion ou une autre. C'est pas du tout ce qu'a voulu faire Olivier.
Non,
je pense que c'est cette complémentarité qui va faire que la scène artistique va survivre. Et Marseille, c'est une ville difficile pour les artistes. C'est un super laboratoire parce qu'il y a des espaces pour créer, etc. Mais qu'effectivement, ça, je suis d'accord avec toi, les artistes marseillais n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir par rapport à leur originalité, leur qualité. Et alors ça, c'est la règle des triangles d'or, où en gros, les bons artistes se retrouveraient entre Berlin, Londres et Paris, en sachant que Paris sort un petit peu du lot quand même. Mais il faut faire attention, et là je parle presque d'un point de vue politique, à cette segmentation qui pourrait y avoir entre des événements qui promeut effectivement quelque chose qui s'adresse à une masse de public beaucoup plus importante, à une programmation qui peut se retrouver à Londres, à Paris, à New York, à Acapulco. Enfin, je force le trait, mais c'est un petit peu ça. À un problème politique qui saurait qu'on va glisser vers ce genre d'événement en abandonnant tout le reste. C'est cette complémentarité qui fait la force de la scène artistique marseillaise et de la scène culturelle. Et voilà, je pense qu'il va falloir faire très attention à ça dans les années à venir, parce que c'est ce que peut-être on va essayer de faire. Et il faut que chaque opérateur, on travaille en complémentarité avec nos métiers, nos compétences. Et c'est ça qui est très important pour moi et qui, je pense, est important pour chaque opérateur qui s'investit dans le secteur culturel et dans la diffusion artistique, qui est un métier très, très difficile et très risqué.
Merci à tous les trois. C'était une chouette conclusion. En effet, on l'aura compris tout au long de cette émission. Il n'y a pas les festivals en général. Il y a plein de festivals. On en a parlé de quelques-uns, plutôt des festivals musicaux estivaux dans cette émission. Ils sont très différents, de tailles diverses. Et en effet, il y a sans doute des complémentarités à jouer. Merci Virgile pour Believe in Marseille. Olivier Ray pour les Nuits Métis et le Zigzag Festival. Elodie Lebreux pour le festival Mimi, organisé par l'AMI. Et puis Olivier Cardudo qui a dû nous quitter, mais qui était là pour parler du Midi Festival. Believe in Marseille, donc, c'est... le 20 et le 21 juin sur le J4. Nuit Métis, c'est le même week-end du côté de Miramas, gratuit au plan d'eau de Saint-Sulpice à Miramas. Donc Zigzag Festival un petit peu plus loin dans le courant du mois de juillet, du 17 au 19 du côté de Théâtre de Verdure d'Aix-en-Provence. Et puis le festival Mimi, évidemment, du 2 au 6 juillet sur les îles du Frioul. Vous retrouvez des informations sur ces différents événements évidemment en cherchant un tout petit peu sur internet et puis éventuellement via le site de Radio Grenouille. Nous serons notamment en direct le jeudi 3 juillet du festival Mimi, en direct de la Friche Belle de Mai, une semaine qui sera chargée en festival d'ailleurs pour Radio Grenouille, puisqu'on sera également en direct du Festival International du Documentaire qui se déroule du 1er au 7 juillet. On sera en direct du Festival de Marseille et puis du World Wild, qui est exactement sur la même période, le festival de Gilles Peterson organisé du côté de Sète. Voilà, un été très chaud et très festivalier pour Radio Grenouille, qui se passera aussi du côté de la Friche Belle de Mai. On vous en parlait du côté du Toit Terrasse au mois d'août, où nous avons concocté une programmation plutôt musiques électroniques, au Petit Pavillon chaque vendredi soir, bien sûr. Et puis, dernier mot sur l'été de la Grenouille, c'est dans le cadre des 48 heures chrono de la Friche Belle de Mai, du 27 au 29 juin, 48 heures de propositions artistiques dans les différents espaces de la Friche. Grenouille y participera avec une nuit de la transe à vivre sur place et en direct sur les ondes de Radio Grenouille, avec plus de une dizaine d'heures de radio, donc une grosse émission de 6 heures en direct autour du concept de la trance, puisque ces 48 heures chrono sont sur le thème de la danse. Voilà. Donc ça sera à retrouver sur nos ondes, et donc du 27 au 29 juin 2014 dans le cadre des 48 heures chrono de la Friche Belle de Mai. Un dernier mot, parce que l'été, ce n'est pas que les festivals aussi, sur nos radios de quartier. Nous vous avons emmené du côté de Noailles et du côté de Malpassé au long de cette saison, avec Radio Noailles et Radio Malpassé. Radio Grenouille allait s'installer pendant une semaine dans un quartier pour rencontrer les habitants, les acteurs culturels, sociaux, tendre ses micros vers les transformations urbaines et les ressentis des gens qui font la ville aussi. Eh bien, en plein cœur du mois de juillet, on s'éloignera de l'effervescence festivalière pour aller du côté de La Cayolle, pas très loin des Calanques, pas très loin de la prison des Baumettes non plus, dans les quartiers dits sud, mais une vraie cité avec une histoire très très particulière. Ça sera la semaine du 14 juillet. Pendant plusieurs jours, on sera branché directement sur le pouls du quartier de La Cayolle à Marseille, qui a une histoire vraiment phénoménale depuis la réception de réfugiés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à des bidonvilles qui ont duré pendant des dizaines et des dizaines d'années aux abords du paradis des calanques et de la pinède marseillaise. Alors, Radio La Cayolle, c'est sur Radio Grenouille, donc la semaine du 14 juillet. Voilà, c'est toutes les infos. Si vous voulez en savoir plus, www.radiogrenouille.com. Merci encore aux invités. Merci à Sébastien Gély pour la réalisation. C'était Stéphane au micro. Vous êtes à l'écoute de l'émission spéciale Été de la Grenouille, spécial festival enregistré au Petit Pavillon. On écoute une dernière sélection musicale choisie par RAF, qui est le premier de nos DJ résidents qui va ouvrir les apéros du Petit Pavillon, ici 54 Corniche Kennedy, dans la foulée de cette émission. Merci pour votre écoute. Bye bye, restez calés. On the natural charge, bomb for yard. Yeah, but the home of the Dodgers Brooklyn Swarm. Who's paying to the hubby's own swarm? Rain on your college ass disco door. But you didn't even touch my skill. You're not the one to be, and he ain't gonna kill.